France Inter.
Bonjour, bonjour et bienvenue dans le Grand Face à Face, l'émission de débat et d'idées de France Inter. À mes côtés jusqu'à 13h, les duellistes, Natacha Polony, journaliste, éditorialiste et à la tête de la nouvelle revue L'Audace, et Gilles Finkelstein, secrétaire général de la Fondation Jean Jaurès. Comme chaque samedi, ils reviendront sur l'actualité de la semaine et en particulier aujourd'hui sur les suites politiques de la mort de Quentin Derenck à Lyon la semaine dernière. Et puis, pour le débat, nous recevrons l'un de nos grands documentaristes de notre temps. Son dernier film, Orwell 2+2=5, sera au cinéma mercredi prochain. Une plongée fascinante dans l'œuvre du grand écrivain anglais dont l'actualité, malheureusement, peut-être ne se dément pas. Le cinéaste, ancien ministre de la Culture d'Haïti, Raoul Peck, sera avec nous tout à l'heure pour le débat, mais pour l'instant, place au duel.
Le grand face-à-face, Thomas Negarov sur France Inter.
Bonjour Natacha et Gilles.
Bonjour. Bonjour.
On revient évidemment sur cette semaine marquée par les suites du drame qui a constitué la mort de Quentin Derenck à Lyon il y a une semaine. On va revenir sur les implications politiques à gauche, à droite, mais commençons par écouter le procureur de Lyon, Thierry Dran. C'était avant-hier jeudi, en fin d'après-midi.
Lors des interrogatoires des 7 personnes placées en garde à vue pour homicide volontaire, 2 d'entre elles refusaient de s'expliquer. Les autres connaissaient leur présence sur les lieux et certains admettaient avoir porté des coups à Quentin Derenck ou à d'autres victimes. Ces 7 personnes sont âgées de 20 à 26 ans, sont pour l'essentiel des étudiants, des employés dans le privé, un est sans emploi et un, comme vous le savez, assistant parlementaire. Certains appartiennent à des associations et 3 déclarent avoir fait partie ou être proche de la mouvance d'ultra-gauche.
Cette violence politique, Natacha, ces mouvements d'ultra-gauche, on l'a entendu, mais aussi d'ultra-droite, sont-ils évidemment, certes, très dangereux, mais tout de même ultra minoritaires, ou bien faut-il craindre une explosion de violence politique, certains n'hésitant pas à parler de guerre civile en France?
Alors, n'exagérons rien. Premier point, il y a une enquête en cours, elle n'est pas terminée, il va falloir comprendre la totalité la séquence qui a abouti à la mort tragique du jeune Quentin, dans la mesure où il est très difficile, évidemment, de comprendre comment on en est arrivé à la violence. Ce genre de bande a l'habitude de s'affronter, ils se connaissent. La ville de Lyon est en particulier très souvent le lieu d'affrontements de groupuscules d'extrême droite et d'extrême gauche, et il y a une forme de tradition dans ces groupuscules de se chercher, de se provoquer jusqu'au moment où il y a un risque de dérapage. On m'explique même que c'est une espèce de rituel où il s'agit de prendre un adversaire et de le frapper pour ensuite le brandir en trophée et gagner des galons. Il y a donc toutes ces codifications qui expliquent ce qu'on voit sur la vidéo. Donc on est dans ce contexte-là. Le deuxième point, c'est que en effet, tout cela a toujours existé. Il faut se souvenir de ce qui se passait dans les années 70 entre les couleurs d'affiches des différents partis politiques. En revanche, il y a eu des alertes ces dernières années de la part des renseignements sur la montée de la violence d'extrême droite, beaucoup. Et là, on constate une violence d'extrême gauche qu'on a vu aussi monter, notamment à travers les Black Blocs, et on va y revenir, mais c'est très important, le rôle à la fois des Black Blocs, le rôle de ces groupuscules, jeunes gardes, etc. Il me semble qu'un premier point doit être mis en avant. Ces jeunes gens qui sont des jeunes bourgeois en mal de sensation, hein, c'est un petit peu ça quand même, et je pense que c'est, on va parler tout à l'heure de George Orwell, c'est le contraire absolu de la gauche et du socialisme de George Orwell. Ces jeunes gens-là, le véritable problème, c'est que la France insoumise les a fait rentrer au Parlement. On a donc un attaché parlementaire dont le rôle, enfin même la fonction, le métier est d'aller à l'Assemblée nationale, éventuellement en circonscription, certainement pas dans ce genre de choses sur ses heures de travail. Tout cela, il y a une responsabilité politique à avoir fait ça. Le Rassemblement national a toujours eu des liens avec des groupuscules, le GUD, etc. Il y avait un sas de décompression avant qu'il n'entre en politique. C'est-à-dire que on se met une cravate et on essaye de nettoyer un peu le passé. Là, on n'en est plus là. Et je pense que ça raconte quelque chose qui est en train de se mettre en place. et qui ensuite est liée à l'ambiance politique et à l'état des affrontements politiques.
On verra les implications politiques, mais restons sur la notion de violence politique dans notre pays aujourd'hui, Gilles.
On est maintenant presque une semaine après la mort de Quentin, une semaine marquée par une émotion qui est légitime, mais qui doit nous faire pas faire perdre notre lucidité. Le spectre de la guerre civile est quelque chose qui travaille l'opinion depuis plusieurs années. Avant même ce drame, une enquête montrait qu'il y a 40% des Français qui redoutent une guerre civile. On n'en est pas là du tout. La violence politique est consubstantielle à la politique et aussi vieille que la politique. Et dire ça, c'est redonner de l'épaisseur historique à un événement, ce n'est en aucune manière le relativiser. Je ne sais pas si vous avez lu le livre de Sor Chalandon, son récit personnel, le livre de Kells, dans lequel il raconte à la fois son enfance, son adolescence dans la rue, et après comment il a été récupéré à la vie par les Mao. Il raconte un épisode en 1973, dans lequel il y a un grand meeting d'ordre nouveau, dans lequel 5000 militants de toutes les extrêmes gauches arrivent armés de barres de fer, de battes de baseball, de poings américains et de nunchaku pour affronter 5000 militants d'extrême droite tout aussi armés face à 5000 policiers et cette immense bataille de rue des années 70. C'est un épisode, il y en a eu beaucoup, avec beaucoup de drames, avec beaucoup de morts, sans compter ce qui est une autre forme de violence politique, les attentats que nous avons connus toutes ces dernières décennies et notamment ces dernières années. Une des questions est de savoir s'il y a une singularité contemporaine à cette violence politique, pas seulement dans les auteurs, beaucoup l'ultra-droite, l'ultra-gauche dont vient de parler Natacha. Et je crois que d'une certaine manière, oui, si on essaie de la caractériser en quelques mots, je dirais, un, la gamme des violences s'est élargie. Le numérique a introduit une forme de violence politique supplémentaire. Deux, l'acceptabilité sociale de la violence politique a progressé. On l'a mesuré après le mouvement des Gilets jaunes. Est-ce que vous considérez que la violence est un moyen légitime pour faire valoir ses revendications ? Vous aviez... En gros, depuis 2020, 20% des Français qui disent oui. Et de manière concrète, c'est est-ce que vous considérez qu'il est légitime ou qu'il est compréhensible d'attaquer, de taguer une permanence politique, de faire une intrusion au domicile des élus ? Vous avez 20-25% des Français qui répondent oui. Et troisième élément, les violences réelles contre les élus se sont multipliées. Dans son essai qui est paru il y a quelque temps, Martial Foucault, qui s'appelle « Le casse-tête démocratique », évoque 2500 actes de violence contre les élus par an. C'est ça, je crois, la singularité contemporaine au-delà de ces mouvements ultra.
Alors, pour prolonger ce que dit Gilles, je pense qu'en effet, il faut revenir un petit peu en arrière pour comprendre comment on en arrive à l'épisode actuel. Gilles évoquait par exemple les Gilets jaunes. Je pense qu'en fait, la violence politique telle que nous la voyons aujourd'hui se développer et les statistiques que cite Gilles sur l'acceptabilité de la violence s'expliquent par un processus progressif dont on voit les premiers effets vraiment frappants avec les manifestations contre la loi El Khomri. C'est-à-dire l'impression qui est montée petit à petit chez beaucoup de gens que le vote ne permettait plus de se faire entendre, ne permettait plus de changer les choses, une impression de privation de la voix et l'impression qu'un processus suit son cours sans qu'on puisse intervenir. C'est ça qui, petit à petit, développe des manifestations et des mouvements sociaux de plus en plus violents, avec ce moment où l'on voit apparaître les Black Blocs dans ces mouvements sociaux, et une dimension assez frappante qui est que vous avez eu donc loi El Khomri, loi travail, etc., différents 1er mai, avec des cinquantaines de Black Blocs dans un cortège officiel et qui n'étaient pas exfiltrés et qui sont allés détruire, dégrader, etc. Deuxième épisode, les Gilets jaunes, où là, vous avez une violence qui éclate, des gens qui manifestent et qui ont l'impression que parce qu'ils sont violents, ils font réagir le pouvoir alors qu'ils étaient totalement inaudibles avant. Donc cette violence-là raconte aussi petit à petit ce qui aboutit à ce que certains se disent « il faut de la violence pour se faire entendre ». C'est pour ça qu'on ne peut pas penser actuellement les groupuscules d'extrême gauche et d'extrême droite sans avoir en tête aussi qu'il y a cet affrontement et le rôle, on va dire, du bloc central dans cette montée de la violence politique.
Avec quand même un contexte particulier ici, c'est pas manifester contre des lois qui vous déplaisent. Là, c'est des groupes qui combattent les uns contre les autres, quasiment à des fins existentielles. Si vous considérez que la victoire de l'autre, c'est le fascisme, ou la victoire de le camp adverse, c'est la disparition de la civilisation, on comprend que ça puisse finir comme ça.
Vous avez parfaitement raison, et ce qui pose la question de quelle est la grille explicative et des causalités. Une des hypothèses, c'est ce que vous évoquez, c'est le lien entre les mots et les actes. C'est dès lors qu'on représente l'adversaire en ennemi irréductible, et qu'il y a même une extension infinie de l'adversaire et de l'ennemi irréductible, est-ce que ça produit après ce genre de choses ? On l'a beaucoup dit cette semaine, et je pense qu'il faut être prudent là-dessus. Alors, ça ne surprendra pas les auditeurs opposés à ce qu'on a appelé la brutalisation du débat public, fermement. Mais je pense qu'il faut être prudent sur la causalité. Il n'y a pas de corrélation entre un discours politique, même violent, et le passage à l'acte.
Quand Gérald Darmanin dit les mots « tue », vous dites attention.
Je dis attention. Il y a même l'idée, je veux dire, qui mérite d'être réfléchie, qui est défendue par la France insoumise, que d'une certaine manière, mettre des mots violents sur une perception par les Français d'une situation qui est violente, c'est un moyen de canaliser la violence. En revanche, c'est là où je pense qu'il faut être prudent dans les deux sens. Tout acte politique violent a besoin d'une justification et d'un système de justification. Et c'est ce en quoi la brutalisation, où on construit tout adversaire en ennemi et qu'on étend le champ des ennemis, est malgré tout quelque chose de dangereux.
Allez, on va maintenant voir les conséquences politiques. Elles sont majeures, notamment à gauche. François Hollande, l'ancien président de la République, aujourd'hui député de Corrèze, a pris la parole.
Pour les scrutins municipaux, il ne peut pas y avoir, au deuxième tour, il ne peut pas y avoir d'alliance entre les socialistes et LFI. C'est clair. Pour le scrutin présidentiel, tout doit être fait pour que la gauche réformiste soit là au rendez-vous et présente au deuxième tour de l'élection présidentielle. Et Jean-Luc Mélenchon n'y a pas sa place.
François Hollande, l'ancien président, qui acte la rupture électorale même et stratégique avec Jean-Luc Mélenchon, 2 ans après son ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve. Est-ce que les liens entre la Jeune Garde et LFI, c'est le point de départ d'une recomposition politique majeure, notamment à gauche, à quelques semaines, on l'oublie quand même, des municipales en France ? Gilles ?
Oui, sur LFI, ça peut marquer un tournant, pas seulement parce qu'il y a la mort d'un homme, mais parce que, ça a été abondamment souligné cette semaine, il y a un lien, un fil qui est tiré entre LFI et la Jeune Garde, et entre la Jeune Garde et la mort de Quentin. Et ce qui a été insuffisamment souligné cette semaine, parce que dans les arguments de défense de la France insoumise, au-delà de la mise en cause du retard dans l'intervention de la police, et même si LFI a évidemment condamné ce qui s'est passé, la défense de l'autodéfense populaire est une ambiguïté dont il faudrait que LFI sorte.
Manuel Bompard explique, juste pour donner un peu son argument, qu'il explique que la violence de l'ultra-droite à Lyon est régulière, que des couples homosexuels ne peuvent pas marcher dans la rue en se tenant la main, et donc il faut organiser une forme d'autodéfense, c'est ainsi qu'il justifie l'action, même s'il condamne en effet les violences.
Donc il y a ce tournant-là. Pour les élections municipales, la France insoumise est affaibli au premier tour, c'est pas l'élection de la France insoumise. Les élections municipales, ils étaient très peu présents la dernière fois, mais ils risquent d'être davantage encore isolés au deuxième tour, au sens où l'alliance devient interdite ou impossible. Le sujet, je pense, le plus important est pour l'élection présidentielle de 2027. Parce que si on essaye de réfléchir à ce qu'a été la mécanique de progression de Jean-Luc Mélenchon en 2022, on voit qu'il est parti d'un noyau. et que ce noyau est peu ou prou le même aujourd'hui, autour du 8%. Et qu'il a réussi, autour de ce noyau, à agréger un halo. D'abord, un halo de vote utile à gauche, en disant c'est lui qui représente la gauche, et un halo, et c'est ça qui a fait la progression finale très importante, avec le raisonnement suivant, c'est le vote utile peut-être pour empêcher l'accession de Marine Le Pen au deuxième tour. Si cette mécanique-là s'inverse, c'est ce que dit François Hollande, et je pense qu'il le dit à raison. C'est-à-dire que non seulement c'est pas le vote utile pour empêcher Marine Le Pen d'accéder, ou Jordan Bardella, au deuxième tour, mais que c'est le moyen le plus certain de faire élire Jordan Bardella, à ce moment-là, il y a un risque majeur de rétrécissement à son noyau initial, voire en deçà pour Jean-Luc Mélenchon.
Natacha, sur cette clarification à gauche, est-ce qu'on vit, comme on le dit au basket, le money time, le moment décisif ?
Alors, je pense que la progression de l'enquête va jouer un rôle important dans cette dimension-là. Pourquoi ? Parce qu'il va falloir établir réellement, et je pense que les enquêteurs sont en train de le chercher, le rôle de Raphaël Arnaud par rapport à la Jeune Garde.
C'est le fondateur de la Jeune Garde.
C'est le fondateur. Et les enquêtes vont ensuite aller sur ce qu'il savait de l'activité de son assistant parlementaire, ce qu'il sait des activités quand la Jeune Garde se déplace en Italie pour aller faire le coup contre des groupes d'extrême droite. Où est-ce qu'il est à ce moment-là ? C'est tout cela qui va être établi. Or, c'est important, parce que quand Manuel Bompard parle d'autodéfense populaire, c'est tout de même la justification de milice de la part de gens qui nous expliquent donc qu'un des problèmes dans ce drame, ça a été la lenteur de la réaction de la police, alors même qu'ils délégitiment la police et qu'ils expliquent qu'elle tue. Donc on est dans l'hypocrisie absolue. Pour ce qui est du rôle du reste de la gauche, quand on entend François Hollande, on est quand même un petit peu gêné. C'est-à-dire que François Hollande, évidemment, est tout à fait malin, a compris ce qui est en train de se passer. Il s'est quand même fait élire député grâce à Jean-Luc Mélenchon, grâce au NFP. Vous disiez à juste titre, c'est une rupture 2 ans après Bernard Cazeneuve. Mais oui, en effet, il y en a qui ont rompu largement avant. Lui a attendu de se faire élire avant de rompre. Et tout cela va petit à petit ressortir. Bien sûr que Jean-Luc Mélenchon, jusqu'à présent, bénéficiait de ce qu'on appelle le vote utile, c'est un très mauvais terme, je dirais plutôt que c'est un vote sacrificiel. C'est-à-dire, je sacrifie ce en quoi je crois, en me disant, au moins, il y aura quelqu'un de gauche au second tour, même si ce ne sont pas du tout mes idées. On voit à quel point c'est délétère dans la démocratie. Et en fait, c'est un des mécanismes, ce vote sacrificiel, qui abîme la démocratie et qui montre qu'on est passé dans ce principe de démocratie minoritaire, où chacun parle à son public sa part de marché et essaye de jouer, en fait, le rejet de celui d'à côté.
Mais il y en a un tout de même qui a saisi le moment pour parler plus largement et pas à son petit public, c'est Jordan Bardella, qui a fait un appel cette semaine à un front républicain inversé contre LFI.
J'appelle donc à constituer un véritable cordon sanitaire pour isoler la France insoumise et la tenir à l'écart des institutions, que ce soit à l'Assemblée nationale, où ses députés siègent dans de nombreuses instances, ou en vue des prochaines élections municipales.
Un cordon sanitaire contre LFI, une forme de front républicain inversé. Gilles, est-ce que c'est ça le passeport pour le pouvoir, pour le Rassemblement national aujourd'hui ?
Dominique de Villepin a publié hier un long texte sur X, dans lequel Je cite un paragraphe parce que c'est intéressant en écho à la question que vous venez de poser. Dominique de Villepin. Nous devons aussi mesurer l'importance du moment où nous nous trouvons. C'est pour la France le moment Charlie Kirk qu'a vécu l'Amérique trumpienne il y a quelques mois avec l'assassinat de Charlie Kirk. C'est un moment qui vise à la délégitimation d'une partie du spectre politique et à la victimisation de l'extrême droite triomphante. C'est intéressant que ce soit Dominique de Villepin qui écrive ça. Cette idée du retournement du Front républicain est une manœuvre d'une colossale finesse. Je dis ça avec distance et humour. Natacha évoquait tout à l'heure les violences de l'ultra-droite, les liens entre le Rassemblement national et l'ultra-droite demeurent. À chaque campagne électorale, on l'a vu aux législatives de 2024, on le voit encore avec ces municipales dont on parle très peu.
Oui, le candidat de Carpentras, par exemple.
Une nouvelle fois, les seuls le seul parti politique dans lequel des candidats sont mis en cause et même doivent parfois se retirer sont ceux du Rassemblement National. Et donc l'idée qu'il y ait un retournement du Front Républicain, je crois, est une grossière illusion, d'autant que le danger immédiat, le danger imminent, n'est pas celui d'une victoire de la France Insoumise, mais reste celui d'une possible victoire du Rassemblement National.
Natacha, sur ce cordon sanitaire appelé de ses voeux par Jordan Bardella ?
Oui, de fait, c'est assez grossier.
Grossier, d'accord, mais moi j'ai entendu aussi des ministres, notamment le ministre de la Justice en France, considérer que l'extrême-gauche et la gauche étaient responsables de ce qui s'était passé. Donc on sent quand même qu'il y a un élargissement au-delà de LFI.
On est dans une stratégie, en effet, de renversement. Vous citiez la phrase de Gérald Darmanin, les mots tuent. Oui. C'est toujours les mots des autres qui tuent, hein, mais jamais ceux de son propre camp. C'est absolument formidable. Et c'est pour ça que j'insistais sur la dimension de démocratie minoritaire. C'est-à-dire que dans ce jeu où on ne cherche plus à avoir un discours qui soit un discours pour l'ensemble des citoyens, mais où on chauffe à blanc son propre public, eh bien, on voit qu'il s'agit avant tout d'affaiblir l'adversaire. Et donc là, la droite et l'extrême droite se saisissent de ça pour renverser ce qui était la mécanique qui, pendant 30 ans, a permis à la gauche, notamment au Parti Socialiste, de se maintenir, à savoir ce fameux cordon sanitaire entre l'extrême droite et la droite. Donc on est dans des manœuvres politiciennes, mais ça raconte une démocratie abîmée et une incapacité de tous ces partis politiques à parler à la totalité des citoyens.
Gilles, un mot avant de passer au débat.
Dernier mot, le retournement du Front Républicain au sens où tous contre la France Insoumise, y compris en faisant élire un candidat du Rassemblement National, je le redis, c'est une illusion. La reconfiguration des alliances que vous évoquiez, ça c'est possible et on voit comment cette affaire peut servir de prétexte à des alliances, notamment entre les Républicains et le Rassemblement
L'Union
National, qui sont déjà en germe. Enfin, c'est un jour un débat qu'il faudra qu'on ait sur ce concept de démocratie minoritaire, parce que je pense que c'était un des grands enjeux de la démocratie dans les années qui viennent, c'est pour qu'elle retrouve sa légitimité de repartir de ce principe que en démocratie, c'est pas mal de gouverner avec une majorité.
On se note pour un post-it pour plus tard.
Voilà.
Démocratie.
C'est pour ça que j'insiste sur ce terme.
Démocratie minoritaire. Allez, son nom a été déjà prononcé pendant ce duel, le nom d'un grand intellectuel et écrivain engagé anglais, George Orwell. C'est l'heure du débat.
Le grand face-à-face, le débat.
Bonjour Raoul Peck.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez été ministre de la Culture d'Haïti. Vous êtes l'un de nos très grands documentaristes. Vous sortez mercredi prochain votre nouveau film au cinéma consacré à un auteur visionnaire, George Orwell. Le titre de votre film, Orwell 2+2=5. Mais avant de se pencher sur ce film, j'aimerais revenir avec vous sur l'un de vos précédents documentaires qui a eu un écho international. Il s'appelait I'm Not Your Negro. Et j'y ai beaucoup pensé cette semaine à l'annonce de la mort du révérend Jesse Jackson. On revient en 1988, pendant la campagne présidentielle américaine, sur la télé canadienne.
Le révérend Jesse Jackson, 46 ans, né en Caroline du Sud, enfant illégitime, répète inlassablement pour sa part que ce qu'il vise, c'est vraiment d'être le candidat démocrate à l'élection présidentielle, c'est la nomination.
Jesse Jackson qui veut être président, qui veut la nomination, il le dit à ses militants, candidat pourtant malheureux à l'élection présidentielle en 84 et en 88, à chaque fois il échouera à obtenir même l'investiture du Parti démocrate. On l'a beaucoup considéré comme l'héritier de Martin Luther King et à bien des égards un homme qui aura préparé aussi l'accession au pouvoir de Barack Obama en 2008. Raoul Peck, la mort de Jesse Jackson, est-ce que c'est une période de l'histoire américaine qui disparaît avec lui ?
Oui, et il nous rappelle comment, au final, aujourd'hui, on a besoin de leaders comme lui et qui nous manquent vraiment dans la situation actuelle aux États-Unis. Et ça me rappelle aussi comment la plupart du mouvement noir a été décapité. On oublie que le FBI avait un programme qui s'appelait Contel Pro, qui a systématiquement éliminé le leadership des Black Panthers et d'autres leaders radicaux. Et on se retrouve dans une Amérique où ce sont quasi les rappeurs qui sont les plus grands porte-parole du mouvement noir. Et ça, la mort de Jesse Jackson, je pense, touche beaucoup de gens par rapport à cette réalité aujourd'hui.
C'est la disparition d'un combat très politique, remplacé par un combat peut-être plus culturel, de pop. Et en cela, pour vous, c'est une dégradation de la lutte ?
Oui, absolument. C'est-à-dire on a perdu la diversité de nos voix. À l'époque, il y avait un Malcolm X, il y avait un James Baldwin, il y avait un Medgar Evers, il y avait un Martin Luther King, bien sûr. Donc, c'était des grandes voix, c'était des intellectuels, c'était un pasteur. Et aujourd'hui, on ne peut pas tout réduire à l'entertainment. Alors oui, ils ont le porte-voix, mais pas forcément
la voix.
La voix qui va avec. Et ça réduit beaucoup les choses. Et ça, voilà, c'est un combat qui mérite mieux.
Alors, on en vient à un grand intellectuel, au cœur de votre dernier film, je le répète, en salle mercredi prochain. Ce film, il s'appelle Orwell 2+2=5.
Si le leader déclare que tel ou tel événement ne s'est jamais produit, eh bien, il ne s'est jamais produit. S'il dit que 2 et 2 font 5, eh bien, 2 et 2 font 5. Cette perspective m'effraie bien plus que des bombes. Et ce ne sont pas là des paroles en l'air.
La voix de l'extraordinaire Eric Ruff sur les mots très puissants de George Orwell. On va revenir évidemment sur le fond, le propos, mais d'abord une question peut-être toute simple pour vous. Pourquoi vous, Raoul Peck, avez consacré plusieurs années de votre vie à George Orwell ?
Oui, en effet. En fait, c'est un grand cadeau que je reçois. C'est une offre, dirigeant de Universal en Angleterre, qui a offert à mon ami et collègue Alex Gibney de produire un film autour d'Orwell. Et Alex leur dit, je le ferai si Raoul réalise. Et Alex m'appelle et me dit, voilà, on a Orwell, est-ce que ça te dit ? Moi, je lui dis, est-ce que je peux faire le film que je veux ? Il me dit, oui, bien sûr. Il dit, ben, ajoute mon nom. Et c'est comme ça qu'on commence ce projet, il y a un peu plus de 4 ans maintenant. Et pour un cinéaste, avoir accès à tout l'univers d'un grand écrivain comme celui-là, j'avais des réminiscences de l'école, Animal Farm, la ferme des animaux, et 1984. Quand j'étais plus jeune, j'étais plutôt engagé dans un combat immédiat, dans la réalité. Or, on nous avait vendu à l'école Orwell comme dystopique, provenant de la science-fiction même. C'était pas l'auteur immédiat qui était sur ma liste.
Est-ce que précisément, c'est peut-être parce que c'était, ou ça devenait un combat d'actualité. À un moment, Orwell, dans le film, dit « Notre époque est politique, on ne peut s'empêcher d'y penser. Quand on est sur un bateau qui coule, on ne pense qu'à des bateaux qui coulent. »
Ouais. Non, mais c'est bien sûr, quand je recommence à me plonger dans l'œuvre, je me rends compte de la bombe que c'est et comment ça s'applique presque mot à mot à la réalité qu'on vit. Et pas seulement en Amérique, un peu partout dans le monde. On peut nommer les choses, parce que ça aussi, il dit quand on peut nommer les choses, on les comprend. Et on s'aperçoit qu'il avait tout nommé, qu'il avait tout analysé, qu'il nous livrait la boîte à outils de toute déviance totalitaire, autoritaire et autres. Et on peut l'appliquer à tout genre d'institutions, pas seulement le politique, d'ailleurs.
Pourquoi votre ami, il pense à vous directement, quand il pense à faire un film sur Orwell, il dit « c'est Raoul qui doit le faire ». Pourquoi Raoul Peck ?
Bon, parce que je pense que, comme vous le disiez tout à l'heure, « I am not your Negro » a amené une autre manière de faire le documentaire, une autre manière de revisiter l'histoire, le politique. Et je pense, c'est un film qui a été vendu dans le monde entier, c'est mon plus grand succès commercial, un succès que j'attendais pas. C'est un film que j'ai mis 10 ans à faire, et là aussi, j'ai eu accès à toute l'œuvre de Baldwin.
Oui.
Donc c'est une énorme responsabilité. Et pareil pour Orwell, j'ai senti le poids de cette responsabilité, parce que c'est le genre de film qu'on doit pas rater.
Pourquoi ?
Parce que Orwell veut trop dire par rapport signifie beaucoup dans la vie de beaucoup de gens. C'est quelqu'un qui est probablement le plus grand lanceur d'alerte de notre époque contemporaine. Il écrit tout ça dans les années 40.
Mais est-il un lanceur d'alerte? Parce que Charles Danzig, écrivain français qu'on a reçu au Grand Face-à-Face il y a deux semaines, est un peu dur, enfin un peu dur, parle d'Orwell dans son livre, et il dit qu'il prophétisait surtout le passé. Mais est-ce que, en fait, Orwell était un incroyable, extraordinaire descripteur du moment qu'il vivait ou du passé juste avant, notamment de la Seconde Guerre mondiale et des années 30, et il se trouve, en fait, qu'il ne prophétisait pas l'avenir, c'est que peut-être la même période revient.
Il parlait du présent. Voilà. Il parlait du présent et il parlait de ce qu'il a vécu.
Oui.
Orwell n'était pas un intellectuel assis sur son bureau en train de penser le futur. Non. Ouais. Il a sorti ce qu'il avait dans le ventre, ce qui venait de la Birmanie quand il va à 19 ans. Et il se retrouve soldat colonial pendant 5 ans.
Oui.
Un jeune qui parle avec des illusions, il pense qu'il va faire du bien puisqu'il est né en Inde. Là aussi, cette naissance, il écrit que pour comprendre les motivations d'un écrivain, il faut aller voir de là où il vient, comment il a commencé sa vie. Moi, c'est ce que j'ai fait, je suis retourné en Inde. Je vois cette photo de Orwell, petit bébé blond, dans les bras de sa nourrice indienne noire.
Oui.
Cette image m'a choqué, dans le sens que je comprends cet homme, je sais d'où il vient. Parce que quand on a grandi comme ça, dans les bras d'une femme qui n'était pas votre mère, et c'est votre premier contact charnel, ça reste. C'est pour ça qu'à 19 ans, il retourne chercher quelque chose. Il a découvert l'altérité. Et puis, il découvre qu'il est du mauvais côté. Et il va écrire là-dessus. À une époque où personne ne faisait ça. C'était très facile de se couler dans le flot de la pensée dominante.
Mmh.
Non, il a écrit un acte de contrition. Il a parlé des horreurs qu'il a vues et auxquelles il a participé.
On va y revenir, mais l'honnêteté de Orwell, c'est aussi de reconnaître quand ses ennemis ont raison, parfois, et donc de, à chaque fois, faire preuve d'une immense empathie. Est-ce que vous êtes aussi...
De jamais être dogmatique,
jamais.
Tout simplement.
Est-ce que vous êtes promené aussi dans Paris, là où il a été dans La Dèche, c'est l'un de ses grands livres?
Oui, absolument. Enfin, je connais Paris, donc j'ai pas eu à me repromener, mais c'est des endroits qu'on reconnaît. Le nord de l'Angleterre, quand il va visiter les mineurs. Voilà, c'est quelqu'un qui dit, il faut que je comprenne ce monde. Il écrit, je m'intéressais aux déshérités, aux pauvres, aux chômeurs, aux prostituées.
Oui.
Et c'est ça qu'il a été chercher, parce qu'il fallait qu'il sente, qu'il se sentent en accord avec ce monde, qu'ils comprennent comment il fonctionne, qu'ils comprennent les inégalités avec lesquelles il a grandi. La question de classe, il se rend compte que dans l'Angleterre, les nuances entre les différentes classes, il comprend que sa place n'est pas au sommet. Et il regarde, il dit « je détestais les plus riches au-dessus de moi qui me regardaient de haut ». Et parce qu'il appartenait à un autre milieu. Donc il nous offre une analyse très fine des rapports de classe en Angleterre.
Natacha.
Votre documentaire cite en permanence les textes d'Orwell et c'est extraordinaire justement de se remettre dans l'oreille. C'est la pertinence de ces mots, c'est justement pour ça qu'on a présenté longtemps Orwell comme quelqu'un qui décrivait le stalinisme, ce qui est véritablement manqué totalement la cible, donc ce n'est pas un écrivain du passé. Et justement, vous étiez sur toute la façon dont il a pris conscience des choses et que vous montrez dans le documentaire, qui induit chez lui l'obligation d'aller vivre dans sa chair. C'est ça surtout qui est frappant, que ce soit la pauvreté, que ce soit la domination coloniale, que ce soit la guerre d'Espagne. À chaque fois, il a besoin de vivre. Est-ce que vous diriez, parce que je pense que c'est une dimension importante, que c'est une sensibilité et surtout une empathie qui lui permet de comprendre, la capacité réelle à se mettre à la place des autres. Il y a un texte qui est un texte magnifique chez Orwell, qui est l'éloge du crapaud ordinaire, dans lequel il explique que les intellectuels de gauche qui prônent le socialisme, en fait, s'ils ne sont pas capables de s'émouvoir du retour du printemps, ne pourront jamais toucher les masses. Cette dimension d'empathie, comment on l'a fait naître? Est-ce que vous aviez ça en tête?
Oui, pour moi, c'est la condition sine qua non. Je ne peux pas faire un film comme ça. Je me mets presque dans la peau d'un acteur. Je revisite toute son œuvre. Mais en même temps, j'essaie de le sentir émotionnellement, intellectuellement, bien entendu. Mais c'est comme prendre la scène. Un acteur qui va jouer un personnage, il doit comprendre l'intimité même de ce personnage. Et c'est le travail que je fais avec mon équipe, c'est d'aller au plus près. La décision de n'utiliser que ses paroles, elle est clé, parce que je lui donne toute la scène. Je n'essaie pas d'interpréter, j'essaie de sentir. Le travail avec l'acteur, avec Eric Ruff en français et Damien Lewis en anglais, la direction que je leur donne, c'est vous allez monter en scène et vous êtes Orwell. Donc l'aspect personnel, l'aspect intime, l'aspect de l'empathie compte, sinon ces paroles restent des paroles intellectuelles. Et moi, ça ne m'intéresse pas. Et cette absence de dogmatique chez lui, c'est ça aussi. Il a décidé qu'après la guerre d'Espagne, il dit, après cette guerre atroce dans laquelle mes amis meurent à côté de moi, parce qu'il y a une consigne de Moscou qui vient, les trotskistes, c'est l'ennemi. Il dit, après ça, alors qu'il est socialiste, il a toujours défendu le socialisme, c'est l'autre aspect qu'on a voulu oublier, il dit, à partir de ce moment, je savais qui j'étais. Et je savais où j'allais. Et ça, ça a été important. Il n'a jamais séparé sa personne de ce qu'il écrivait.
Gilles, il y a un mot que Natacha a prononcé, qui est le mot ordinaire, mais c'était avec le crapaud, mais qui revient beaucoup dans la pensée d'Orwell et dans le film, qui sont les gens ordinaires, la décence ordinaire. Vous dites, Orwell dit à la fois dénonce ceux qui ont intérêt à empêcher les gens ordinaires de devenir trop intelligents. Il dit « Nous ne parviendrons pas à améliorer la situation sans reconnaître la nécessité de la décence ordinaire. Les gens ordinaires n'ont jamais abandonné leur code moral. » C'est quoi les gens ordinaires pour Orwell, et c'est quoi l'importance de ce concept dans sa vision du monde et du socialisme ?
Oui, j'ai longtemps essayé de traduire ça, puisqu'il parle dans 1984 en disant « S'il y a un espoir, il viendra des proles. » Mais les proles, ce n'est pas les prolétaires. Il n'a pas utilisé ce mot-là. Et en réfléchissant, je me suis dit le seul terme approprié, ce serait de dire la société civile. Et la décence commune, c'est pour moi, c'est ce qu'on dit en France parfois, le bon sens paysan. C'est simplement quelque chose que j'ai appris en tant qu'élève de jésuite. Voilà, c'est cette humanité, cette approche humaniste qu'on a par rapport aux choses réelles. Et de pouvoir avoir une discussion les yeux dans les yeux par rapport aux autres autour de soi. C'est juste une sorte de décence normale d'un être humain par rapport à un autre. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas la condenser dans une formule, mais je pense qu'Orwell pensait à ça.
Mais justement, il y a quelque chose d'assez vertigineux quand on essaye d'explorer ce concept de décence ordinaire, c'est cette question de savoir si ça perdure de tout temps dans l'esprit d'un peuple, c'est en gros la conscience instinctive de ce qui se fait et de ce qui ne se fait pas, du bien et du mal.
Et qui n'est pas la morale.
Non, ça n'est pas la morale. Ouais. C'est la capacité à être choqué par ce qui ne se fait pas.
Voilà.
Et simplement, est-ce que ça s'est mis en danger ? Je me posais la question en regardant votre documentaire qui nous montre comment on peut basculer extrêmement facilement, notamment par l'effacement de la mémoire et du passé. Or, les technologies modernes, dont George Orwell d'ailleurs se méfiait à juste titre, il y avait chez lui cette intuition, les technologies modernes ont réussi cet exploit de nous maintenir dans un présent permanent et justement d'effacer le passé. D'abord, est-ce que vous aviez ça en tête au moment de faire votre documentaire ? Et ensuite, jusqu'à quel point, selon vous, ça met en danger ce fond essentiel de la décence ordinaire ?
Oui, absolument. Ça fait la base du travail d'Orwell. Oui. Il nous montre la boîte à outils. Et donc les instruments, c'est la dégradation du langage, les mots ne veulent plus dire la même chose, on emploie un mot pour le contraire de ce qu'il veut dire, on réécrit l'histoire, puisque l'histoire pour le régime autoritaire ne l'arrange pas, donc il faut la réécrire, il faut l'effacer. Donc en permanence, la communication, les instruments de communication, pareil, à leur manière, réécrivent et font des choix. Donc les choix, c'est souvent des choix immédiats, du présent, comme vous dites. Et tout ça participe à une espèce de décérébralisation. Vous vous rappelez ce qu'a dit un grand patron de médias de chaînes de télévision ici. Il dit, voilà, mon job, c'est...
De vendre à Coca-Cola du temps de cerveau voilà. Disponible.
Donc ça, c'est tout le monde moderne, et je dirais même le monde capitaliste, n'a fait que ça. On oublie que dans les années 20, il y avait un monopole des journaux. Et il a fallu que des journalistes se révoltent, les Nutcrackers, et la société civile, Common Decency, disent non, ça va trop loin. Et les lois antitrust sont venues, et ont régulé. Et ce qui nous manque aujourd'hui, c'est qu'on ne régule plus. On est en retard sur l'Internet, on est en retard sur l'intelligence artificielle. Parce que le progrès, quand une nouvelle technologie arrive, dans une société qui fonctionne avec le profit, il est clair que l'État doit intervenir. Et s'il y a suffisamment de pression, oui, l'État interviendra, parce que ce n'est pas la faute de la technologie en ML, c'est ce que d'autres vont en faire pour le profit. Orwell l'écrit exactement comme ça.
C'est ça l'actualité d'Orwell, selon vous, c'est de nous dire, de nous donner les éléments qui nous permettraient de dire si notre société ou notre régime est en voie d'être autoritaire, voire pire, c'est ça Orwell aujourd'hui ?
Oui, et même j'irai plus loin, c'est-à-dire il nous offre la capacité d'analyser ce qui se passe aujourd'hui. Parce que vous avez raison quand vous dites, on est un peu perdu, le citoyen normal, il est perdu. Il est bombardé tous les jours d'informations qu'il ne peut pas compiler, qu'il ne peut pas comprendre totalement. Ça nécessite beaucoup de mémoire, de connaître son histoire pour raccorder les morceaux.
Et de décoder.
Et Orwell nous livre la matrix d'analyse. Et c'est ce que je ressens souvent avec mes discussions avec les spectateurs, c'est qu'ils reconnaissent des repères qui leur permettent eux-mêmes maintenant de décoder ce qu'ils reçoivent tous les jours. Quand un Steve Bannon dit we're gonna flood the zone, c'est exactement ça qui se plaint. On va inonder le champ.
Oui, d'informations.
Oui, comme dans le langage militaire, comme on dit, carpet bombing. Oui. On bombarde totalement le champ pour que vous ne bougiez pas, que vous restez dans les souterrains. Et donc, ils envahissent le terrain.
Gilles.
Je pense pour beaucoup de Français, Orwell est associé à une idée qui est Big Brother.
Ouais. Bon.
Et sur ce point-là, pour rebondir sur ce que disait Thomas tout à l'heure, Orwell est visionnaire, au sens où il ne réécrit pas le passé, ou le passé proche, mais ce que vous racontez, ce que vous mettez en scène dans le film autour de ce que la chercheuse Shoshana Zuboff avait appelé le capitalisme de surveillance, est très intéressant. Mais est-ce que, pour prolonger ce que vous disiez tout à l'heure, disons sur la recherche du profit, est-ce que c'est pas plus que ça quand on regarde la reconnaissance faciale en Chine, ce qui est évoqué aussi dans le film, c'est pas seulement à des fins de profit, mais de contrôle politique.
Absolument, le contrôle fait partie aussi de ça, parce que Orwell décrit le système capitaliste, mais aussi les dérives d'un système soi-disant communiste.
Oui.
Il s'approprie des mêmes armes. C'est pour ça que sa pensée, elle est universelle.
Et antitotalitaire.
Et antitotalitaire, anti-autoritaire, et toutes sortes de déviances. On pourrait appliquer ces critères vis-à-vis de toute institution, y compris les églises. Les dérives de la religion catholique, les dérives de la religion musulmane, les dérives... C'est-à-dire, c'est ce que les êtres humains ou les systèmes ou les institutions en font. Et Orwell, pour revenir à la décence commune, c'est pareil. Il faut avoir la capacité de critiquer ces dérives et de les voir venir. Et Orwell nous offre les instruments pour le faire. Et c'est un instrument extrêmement percutant. Moi, autant Marx m'a aidé à une époque pour comprendre l'économie, pour comprendre comment les sociétés se développent au cours des ans, Orwell nous offre un instrument imparable pour tout ce qui se passe actuellement. Il a écrit en 46-47, c'est ça qui est extraordinaire. Il avait déjà vu tout ça, il est passé par là, dans la propagande anglaise et européenne pendant la guerre d'Espagne. Les mensonges, il voyait, il était sur le terrain, et il voyait ce que la presse anglaise écrivait sur cette guerre.
On vit un moment orwellien, beaucoup le disent, mais ce qui est très frappant, et je ne sais pas si vous en souvenez, en 1984, l'année 1984, Apple lance son Macintosh. Et la publicité Apple prend l'iconographie de 1984, le film, pour dire que leur ordinateur va nous libérer, nous, les citoyens, de la contrainte politique. Je vous vois sourire parce que quasiment 40 ans, plus de 40 ans après, on se rend compte à quel point c'est précisément ce système-là, industriel de l'informatique grand public, qui nous a plongé aussi dans ce marécage bourré d'informations qui nous éloigne peut-être aussi de la décence commune.
Oui, mais là, on revient exactement à Orwell. L'utilisation d'un mot, d'une détermination,
exactement,
pour son contraire. C'est-à-dire, on a bouclé la boucle et Apple a su réutiliser, justement, c'est une prise de jiu-jitsu. voilà, et c'est l'un des instruments que Orwell décrit également.
Ouais.
Vous rappeliez tout à l'heure, à juste titre, que Orwell était profondément socialiste, opposé au capitalisme dans toute sa dimension d'oppression. Ouais. Il était un socialiste patriote, il était un socialiste conservateur, mais il était socialiste. Or, ce qui est intéressant, c'est que la figure de George Orwell a été reprise ces dernières années par des courants qui voulait s'opposer à une forme de dérive de la gauche, qu'aujourd'hui certains appellent par facilité wokisme, etc. Mais Orwell était utilisé contre ça. Et dans un sens, il y a un débat aujourd'hui sur la question de la liberté d'expression, de la liberté elle-même, parce que certains ont viré vers le trumpisme par réaction contre un supposé interdit de dire le réel, et de fait... Ça a existé aussi. Comment on pense de façon dialectique cette espèce d'utilisation comme ça d'Orwell et donc de qui a le monopole de la liberté d'expression et qui a le monopole du réel? Je pense qu'il n'y a pas de monopole, mais que c'est justement ça qu'il faut combattre.
Et de la vérité.
Oui, mais moi j'ai du mal à prendre cette discussion au sérieux parce que c'est exactement ce qui s'est passé. Ce que Orwell décrit, par exemple, on a pris le mot wokiste, on l'a retourné.
Oui.
C'est devenu une arme.
Et une insulte.
Et une insulte.
Mm-hmm. Oui, donc, mais ce que je veux dire par là, c'est que certains électeurs de Trump vous diront qu'ils ont voté Trump parce que quand ils critiquaient, par exemple, la façon de gérer l'immigration, on leur disait non, ça n'existe pas. Vous voyez, ça que...
Alors...
Et donc, ils se réclament du réel contre ceux qui niaient le réel.
Oui, mais c'est une adaptation superficielle de cette réalité. Et en effet, il faut critiquer une partie de la gauche qui est plutôt dans une posture et qui ne voit pas les problèmes réels. C'est-à-dire, le rôle d'un parti politique, quel qu'il soit, gauche ou droite, c'est de répondre à ce dont la population ou l'électeur demande, ou en tout cas, peut-être qu'il demande des choses fausses ou qu'il demande des solutions raccourcies. Mais son métier, c'est d'expliquer. Et nous sommes malheureusement plus dans la nuance. Nous sommes obligés d'adopter des phrases simples. C'est ce que le populisme fait, de donner des réponses qui ne sont pas nuancées. Et c'est là le handicap de la gauche. Parce que la gauche tente de tout temps de donner une réponse contextualisée. Obama est tombé dans ce piège.
Oui.
Alors qu'il avait en face de lui quelqu'un qui n'avait pas ce souci. Et on a tous été confrontés à ça. Quand Bourdieu parle de la presse et de comment, quand on arrive sur un plateau, alors je ne parle pas de vous, la table est servie et qu'il n'a plus l'espace pour faire les réponses qui prennent du temps nécessairement. Qu'une réponse polémique en deux phrases, on emballe quelqu'un et voilà, c'est fini. Donc, nos sociétés se sont développées comme ça ces dernières 40-50 années. Et on a du mal à trouver des réponses à ça. Et quand le service public lui-même est parfois obligé, pour des raisons de coupes budgétaires, il faut faire plus court, le problème de la publicité dans les médias publics, etc. En fait, c'est l'espace de discussion qui se réduit de plus en plus, donc on est obligé de couper et d'aller à l'essentiel. Et parfois, le mot « rock », c'est plus facile de l'asséner, et puis on a tout dit, donc c'est pas la peine de discuter.
L'essentiel est parfois une simplification abusive. Gilles.
Vous disiez que Orwell constituait une formidable boîte à outils dans la lutte contre le totalitarisme. dans les registres de lutte contre le totalitarisme. J'ai été frappé à un moment où vous dites, Orwell dit, le pas de loi n'a pas cours en Angleterre parce qu'il ferait rire les gens dans la rue. Est-ce que le registre du rire, de la moquerie, de ne pas prendre au sérieux, est-ce que c'est un registre possible de la lutte contre les totalitarismes?
Oui, on l'a vu, malheureusement aujourd'hui c'est Trump qui s'en est approprié. C'est sa manière d'insulter très rapidement, de mettre ses adversaires ou ses ennemis perçus en leur trouvant un sobriquet drôle. Et ça marche. Mais on l'a eu à un moment de la gauche, quand quelqu'un comme le grand auteur dramatique italien Dario Fo, c'était le burlesque, se moquer de l'État, se moquer de la police ou de dérives totalitaires en Italie. Voilà, on est dans la comédie burlesque. Et Orwell, il a cet humour également. Bien sûr, il parle en tant qu'anglais. En effet, il y a sur cette île d'Angleterre, tout le monde se connaît. Donc il y a des choses qu'on ne fait pas, sinon on va vous dire que vous êtes ridicule. Et en effet, le pas de loi, vous imaginez, où, à une époque où les policiers ils n'emmènent pas de pistolet à Londres. Donc c'est une sorte de petit village. Donc arriver avec des soldats au pas de loi, voilà, les gamins allaient se moquer de vous. Et donc, pour moi, l'humour fait partie aussi des instruments, et dans les deux sens. Oui. Mais aujourd'hui, malheureusement, je pense qu'on a un peu perdu le nôtre.
Oui, et parfois même le ridicule ne tue pas, et même permet d'arriver au pouvoir.
Absolument, ouais. Absolument. Alors, on l'a vu en Europe avec Berlusconi. Mmh. Oui. On s'est moqué un peu au début, même par rapport à des présidents français, où voilà, la moquerie était l'instrument pour les descendre. Et Trump, voilà, le roi est nu, mais on ne le dit pas et on ne le voit pas.
J'ai une dernière question sur ce film, Orwell, 2 plus 2 égale 5. Vous nous en avez parlé, et les gens ne vous voient pas forcément en écoutant à la radio, évidemment, mais avec beaucoup d'enthousiasme, avec le regard qui frise souvent, on sent que vous avez beaucoup appris et aimé Orwell. Qu'avez-vous appris de lui? Ce que vous ignoriez en commençant votre travail, qui vous a le plus impressionné, peut-être?
J'ai appris à le découvrir, lui. Il y a beaucoup de choses que je savais, mais je ne savais pas à quel point qu'il avait vraiment développé ça comme un concept, qu'il avait analysé ça, et combien c'était absolument limpide, sincère. D'ailleurs, il a toujours dit, j'essaie de d'écrire comme on voit à travers une glace. Ses mots sont clairs, sont simples, il n'y a pas trop d'adjectifs, on s'y retrouve tout de suite, tout le monde peut comprendre ces phrases, c'est pour ça qu'il y a 10 000 citations d'Orwell, et tout le monde se sert là-dedans. Et ça, j'ai appris à le redécouvrir, et puis plus personnellement, j'ai appris à découvrir ce que j'appelle un frère. C'est-à-dire, dans beaucoup de mes films, j'ai travaillé sur des gens qui avaient voyagé, qui avaient été vers l'autre, Baldwin, Sven Lindqvist, Marx également, oui. Marx, Engels, Jenny Marx, ils ont voyagé dans toute l'Europe. Ils allaient vers l'autre, ils discutaient, ils n'avaient pas peur de discuter. Ernest Cole, et pareil, Orwell, il a été de l'autre côté de l'océan. Il a appris autre chose, il a appris l'altérité. Et moi, voilà, ça me rend... me l'a rendu plus proche.
Un frère.
Et ça, j'aurais jamais deviné, puisqu'on me l'avait vendu comme un écrivain de science-fiction. Et c'est pas c'est pas un genre que j'apprécie particulièrement.
Raoul Peck, bâtisseur de ponts, bien plus que de murs, on l'a entendu. Merci beaucoup d'avoir été notre invité.
Merci.
On regardera avec beaucoup d'intérêt ce film qui sort mercredi au cinéma. Il n'y a pas que des citations d'Orwell dans ce film, il y a aussi beaucoup d'images d'aujourd'hui, ce qui permet de comprendre l'actualité et le caractère visionnaire de cet intellectuel, votre frère, vous nous avez dit.
Absolument.
À l'instant. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Gilles et merci Natacha. Merci à l'équipe du Grand Face à Face, Mathilde Clatte à la préparation de l'émission, Marie Merrier à sa réalisation. Aujourd'hui, Marie Potier à la technique d'une émission à laquelle vous pouvez vous abonner en podcast sur l'appli Radio France. Continuons à lire George Orwell. Pauline, notre petite stagiaire, a lu à l'école La Ferme des animaux. C'est formidable pour entrer dans l'œuvre de Orwell. Quant à moi, je vous retrouve tout à l'heure à 18h avec la suite et la fin de notre conversation avec Éric Buge sur l'exemplarité en politique. Une conversation que vous pouvez écouter en podcast sur l'appli Radio France.